XVIIIe siècle, vivait en France un homme qui comptait parmi les personnages les plus doués et les plus connus de son époque. Son unique ambition se bornait au royaume évanescent des senteurs. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille.
Qu'est-ce que tu fais ?
Je crée un parfum.
Ça, c'est à peu de choses près la vision que j'avais d'un parfumeur quand j'ai rencontré Nathalie Graciasetto. Elle aussi, elle crée des parfums, mais elle est beaucoup plus fréquentable et élégante que le héros de Suskind. Surtout, la première fois que j'ai discuté avec elle, elle m'a dit deux choses qui m'ont frappé. D'abord, que les créateurs de parfums ne travaillaient pas devant un piano d'ingrédients qu'ils humaient romantiquement, mais devant un écran d'ordinateur. Ensuite, elle m'a dit que l'entreprise qui l'employait, Givaudan, qui est un des leaders mondiaux des fabricants d'arômes, avait développé une sorte d'intelligence artificielle d'aide à la création. Alors ça suffit à exciter ma curiosité. Comment on peut imaginer un parfum face à un écran ? Comment des programmes informatiques peuvent-ils aider à créer des objets aussi sensibles que les parfums ? Ça, franchement, je vois pas très bien. Alors, devant ma perplexité, Nathalie a eu la seule réponse que j'attendais. Viens me voir, je vais te montrer tout ça.
Le code a changé.
Cette question de l'intelligence artificielle et de la création, elle devient centrale. En musique, en art, on parle de plus en plus d'œuvres générées par des algorithmes, ou tout au moins à l'aide d'algorithmes, sans qu'on sache vraiment d'ailleurs comment se sont fabriqués ces programmes, sur quels principes, avec quelle intention. D'où ma question, jusqu'où peut-on dire que la machine crée ? C'est avec tout ça en tête que je suis entré dans les très élégants locaux de Givaudan à Paris, puis que je suis monté dans le bureau de Nathalie, très agréablement perché sous les toits. Alors en effet, il y a des flacons sur des étagères, quelques tubes sur sa table, mais c'est face à un ordinateur qu'elle s'assoit. Nathalie commence par m'expliquer son métier. Givaudan, son employeur donc, répond à des appels d'offres provenant de marques de parfums. Ces appels d'offres contiennent des briefs, ce qu'on appelle des briefs, qui donne les grandes lignes de ce qu'attend la marque en termes de public visé, de prix, de grandes lignes olfactives, d'univers concurrentiel, parfois même de couleurs de jus, etc. À charge de Nathalie de répondre à ses attentes dans un délai que je trouve alors étonnamment court, un mois environ, me dit-elle. Quand elle reçoit un brief, Nathalie commence par réfléchir. Puis, quand une première idée lui vient, elle fait un truc tout bête. Elle fait ce qu'on fait tous quand on arrive au bureau, elle allume son écran. Ce qui provoque mon étonnement, si elle n'a pas besoin de sentir des ingrédients pour composer, c'est donc qu'elle a tout en tête.
On compose avec la mémoire qu'on a des odeurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un laboratoire en train de ressentir à chaque instant les matières premières. En fait, on connaît leur profil esthétique, on connaît leur puissance, on sait comment une matière va interagir avec une autre, voilà.
Mais Nathalie a un support informatique pour faire ça, un outil de formulation qui s'appelle iSphinx et qui ressemble grosso modo à un tableur. À première vue, donc, rien de fou. Et je lui demande à quoi ça sert.
Cet outil qu'on a nous facilite la tâche sur tout ce qui aujourd'hui nous paraît automatique, mais qui ne l'était pas avant lorsqu'on formulait sur papier, c'est-à-dire que ça nous calcule le prix en direct, parce qu'évidemment, on a des contraintes de prix. Le parfum, il faut savoir que c'est très normé. On a beaucoup de contraintes de sécurité en termes de... par rapport à la santé, par rapport à l'environnement. Chaque région du monde a ses propres normes. En fonction des projets, on doit être conforme aux normes Japon, aux normes Corée, aux normes Canada, aux normes Australie, aux normes européennes, aux normes américaines. Bon, ça, on a donc intégré dans l'outil. L'autre gros intérêt que je vois, moi, dans cet outil, c'est que la formule est envoyée directement au laboratoire. Il y a une partie de la formule qui va être pesée par un robot et elle sera finalisée par une assistante. On a chacun une assistante ou deux qui travaillent pour nous. Et donc, une fois que la formule sera pesée, on va l'évaluer. Et on va la modifier, et voilà.
Voilà, donc le travail de Nathalie, ce sont des allers-retours entre l'écran où elle compose et la réception d'une formule qui provient de quelques étages plus bas, le laboratoire où elle m'a promis qu'on irait. Une formule qu'elle peut sentir, évaluer, faire tester à d'autres personnes, des évaluateurs donc, ou alors des collègues, pourquoi pas. une formule qu'elle va modifier jusqu'à obtenir ce qu'elle veut. Ça, c'est le cadre général. Mais j'avoue que c'est un peu abstrait pour moi. Donc Nathalie me dit, on va faire des travaux pratiques. Imaginons qu'on veuille travailler une formule autour de deux notes Nutella-Jasmin. Alors moi, je trouve ça chelou, Nutella-Jasmin, mais je dis rien. Trois petites manips sur son logiciel et on se retrouve face à une colonne vide qu'il va falloir remplir d'ingrédients.
J'ai ici ce qui est, on a appelé ma palette. Alors ma palette, c'est mes ingrédients.
C'est ta palette à toi ou c'est la palette...
Je vais créer ma propre palette à l'intérieur de la palette Givaudan.
La palette Givaudan, ce sont à peu près 2000 ingrédients que Nathalie a à sa disposition pour formuler. Mais parmi ces 2000 ingrédients, me dit-elle comme pour me rassurer, il y en a à peu près 1000 qu'elle utilise plus couramment, sa zone de confort, comme elle dit, 1000 ingrédients qu'elle a en tête.
Bon, on va commencer par le plus facile, on va choisir un jasmin. Alors j'ai un absolu Égypte, j'ai un absolu Haute Égypte, j'ai un absolu Inde, j'ai des absolus Sambac, c'est une autre variété de jasmin qui vont avoir une note un petit peu plus orangée. Enfin bon, tu vois toute la... Et donc je les connais ces jasmins-là. Je sais que celui-là est différent de celui-là parce que on va dire qu'il y en a un qui a une petite note un peu fleur d'oranger, qui est le jasmin Sambac, un peu plus indole, qui est la partie animale du jasmin, celle que tu sens le soir quand le jasmin fleurit et qu'il y a quelque chose d'un peu... Enfin, très charnel, très animal. Bon, voilà.
Et
moi, je les distingue.
Bon, bah voilà, c'est ça le métier. Hein. Enfin, une partie du métier. Distinguer mentalement entre tous ces jasmins différents qui, pour moi, hein, ne sont que des noms dans un fichier. Alors, on en choisit un qui va à Nathalie. Je sais pas trop pourquoi.
Pour faire mon petit accord Nutella, je vais aller chercher du cacao. Donc, tu vois, là, j'ai trois qualités naturelles de cacao aussi. Voilà, donc moi j'aime beaucoup celui-là. Ensuite, il va me falloir une petite note un peu noisette. Alors, une petite note un peu noisette, la noisette, elle n'existe pas au naturel. Donc, je vais devoir me faire mon petit accord un peu noisette avec des ingrédients de synthèse. Donc, je sais qu'il y a une famille d'ingrédients qu'on appelle les pyrazines qui sont présentes dans la nature, mais qu'on synthétise pour donner des effets graines, des effets grillés, des effets un peu... Alors selon, hein, c'est une grande famille de produits qu'on utilise de plus en plus depuis qu'on est dans la mode du gourmand et des références un peu alimentaires. Donc là, je vais choisir une pyrazine qui, pour moi, est celle qui a vraiment cette note un peu noisette.
Dans ce que dit Nathalie, là, il y a plusieurs choses qui me semblent importantes. D'abord, tous les parfums présents dans la nature ne peuvent pas être extraits directement. Bon, c'est le cas de la noisette grillée, ça à la limite on peut l'imaginer, mais aussi, plus étonnamment, de certaines fleurs. Par exemple, on ne peut pas extraire l'odeur du muguet à partir du muguet. Il faut recomposer l'odeur du muguet à partir d'autres ingrédients qui peuvent être naturels ou synthétiques d'ailleurs. Et Nathalie, elle parle aussi de ces odeurs un peu sucrées qu'on trouve dans beaucoup de parfums aujourd'hui. Parce que, évidemment, hein, il y a des modes dans les parfums. Et on est manifestement aujourd'hui à celle de parfums qui évoquent la pâtisserie. Alors, selon Nathalie, ça remonterait à Angel de Thierry Mugler qui crée une famille olfactive dans la classification des parfums. La famille gourmande, une note praline donnée par une molécule naturelle qui s'appelle le maltol. Et donc, depuis Angel de Thierry Mugler, le dosage de cette molécule dans les parfums a été démultiplié. Bon, et nous, là, comme on veut que notre parfum évoque le Nutella, Nathalie, elle met plein de maltol. D'ailleurs, question technique. Quand elle construit sa formule, est-ce que Nathalie accorde une importance à l'ordre dans lequel elle place les ingrédients dans la colonne ?
C'est très personnel à chaque parfumeur. Il y a des parfumeurs qui vont formuler en mettant leurs ingrédients en rang alphabétique. D'autres qui vont formuler en mettant en rang de la plus petite quantité à la plus grande ou inversement. Et puis, il y en a d'autres comme moi qui ont... Moi, j'ai appris à formuler comme ça, donc je continue et ça me va bien parce que c'est la façon dont je visualise le mieux ma formule. C'est que je formule dans ce qu'on appelle en tête-cœur-fond. C'est-à-dire qu'en haut de ma page, je vais ranger mes produits qui auront le plus de volatilité et je descends dans ma page sur la volatilité. Donc, je sais à peu près comment va s'articuler mon parfum.
Donc, cette liste qu'on commence à lire sur l'écran, elle participe à l'idée que se fait Nathalie de la formule qui en sortira. C'est-à-dire que non seulement elle a dans la tête les ingrédients, mais elle a aussi leur articulation en fonction des dosages. Je suis assez admiratif, j'avoue. Mais je dis rien à Nathalie, qui continue de formuler notre Nutella Jasmin.
On va un peu doser ça. Ouais, on n'est pas si mal. Je vais rajouter un solvant, comme ça on va faire un truc propre. Hop. Bah, je te propose que j'envoie cette formule. On se concentre sur mon petit accord. Donc, je l'ai pas mal dosé en jasmin parce que je me dis que je ne fais pas attention au prix. Je suis vraiment dans la phase recherche. Donc, voilà. Donc, j'ai envie que ça sente beaucoup le jasmin. J'en ai mis beaucoup. J'en ai mis 10%, ce qui est énorme. Mais on parle bien d'un accord. Le cacao, j'en ai mis. Je me suis fait plaisir aussi. J'en ai mis 10%. Et voilà.
Bon, ça y est, la formule est envoyée au laboratoire. Elle nous arrivera dans un moment pour qu'on l'évalue. En attendant, on peut traficoter sur l'écran. Parce que l'outil là qu'on manipule, il a été imaginé pour les créateurs de parfums, mais aussi pour les autres activités du groupe, comme la création des crèmes, de soins du corps, des bougies. Bon, il a donc des fonctionnalités qui sont assez marrantes.
Je peux faire tourner un programme, voilà, merci, qui va me dire si ma fragrance, elle va rendre happy, rendre invigorating, rendre ou avoir des propriétés relaxing, voilà.
C'est génial. Mais attends, mais tu veux pas la faire tourner notre truc Nutella Jasmin pour voir si c'est happy?
On va essayer, voir si c'est happy. Ah voilà. Ah bah tu vois, il me l'a mis tout de suite.
On est fail, ça, on échoue complètement.
Ah là.
On a fait un truc hyper malheureux.
Bon, on n'était pas happy, mais on était un peu plus revigorant. Bon, cette fonctionnalité, elle a l'air plus utile pour les autres produits, pour les parfums. Alors, Nathalie, elle me montre d'autres fonctionnalités plus directement utiles pour elle. Par exemple, des fiches produits pour chaque ingrédient qui disent son prix au kilo dans chaque zone géographique, mais aussi s'il est naturel, biodégradable, d'où il vient, avec en plus une description olfactive et une mesure de la volatilité de la note. Alors, il paraît que c'est très important pour déterminer si l'ingrédient va vite se dissiper sur la peau ou si, au contraire, il va perdurer pendant quelques minutes, des heures. Bon. Et Givaudan a d'ailleurs créé une donnée qui l'appelle Odor Value, qui donne une idée de l'intensité olfactive de chaque ingrédient. En écoutant Nathalie, je me demande si elle pourrait aujourd'hui travailler comme les parfumeurs d'antan qui couchaient leurs formules sur papier. Et ça, ça ouvre plein de questions. Est-ce que le métier a changé à ce point-là? Et si oui, à cause de quoi? Est-ce que c'est à cause de la rapidité exigée? Est-ce que avoir toujours à sa disposition toutes ces informations, ça augmente la créativité? Ou au contraire, est-ce que ça l'écrase? Je les pose en cascade à Nathalie, ces questions qui me répondent toujours aussi calmement.
Oui, alors plus rapide, c'est évident. Et c'est ce qu'on cherche parce qu'aujourd'hui, on a des délais de travail qui se raccourcissent incroyablement. En fait, à partir du moment où elle te dégage, je dirais, le temps, l'esprit de tout un tas de tâches pas très intéressantes, forcément, bah, ça me rend plus créatif puisque ça me laisse du cerveau disponible, on va dire. Mais on est, oui, je sais bien que ça te paraît loin de l'image du parfumeur en blouse blanche devant son orgue et le sauvage sur son île avec Catherine Deneuve qui l'emmerde toute la journée. On est loin de ça, on est très très loin, on est effectivement face à un ordinateur.
Bon, alors au fond de moi, je suis très content que Nathalie évoque d'elle-même le sauvage. J'adore ce film, moins par ce qu'il raconte du métier de parfumeur. Yves Montand y joue le rôle d'un créateur de parfums à succès qui croit se retirer du monde en allant vivre seul sur une île paradisiaque des Caraïbes, mais parce que Catherine Deneuve, qui joue le rôle d'une voleuse qui s'impose sur l'île, y est absolument sublime, mais d'une beauté qui me renverse à chaque fois que je vois le film, et qui d'ailleurs m'empêche de comprendre un argument principal du film, qui m'empêche de comprendre pourquoi Montand peut autant avoir envie de la virer de son île.
Vous savez ce qu'on prend en arrivant à Saint-Domingue? Un dîner terrible, c'est moi qui paye.
Écoutez, je ne peux pas vous amener à Saint-Domingue.
Mais alors qu'est-ce qu'on fait?
Je vous ramène.
Où?
D'où vous venez?
Non mais ça va pas! Vous êtes complètement fous! J'ai quand même pas fait tout ça pour retourner là-bas!
Et moi j'ai pas fait tout ça pour aller me balader à Saint-Domingue! Je ne fais pas les promenades en mer!
Bon alors si c'est comme ça, je reste!
Quoi, ici?
Oui, ici. On est très bien, non?
Je suis très bien! Et je suis très bien parce que je suis tout seul, c'est clair? Bon, alors maintenant, embarquez, parce que j'ai pas que ça à faire, et pour moi, c'est du temps perdu.
Bref, comme on est toujours en train de traficoter dans le logiciel de Nathalie en discutant, je me pose une question. Est-ce que l'ordinateur garde en mémoire les formules, toutes les formules?
De mon laptop, j'ai accès à tout ce que j'ai créé depuis que je suis rentrée chez Givaudan. Et il arrive qu'on vienne me voir et qu'on me dise « Tu te souviens ta figue un peu cuirée que tu avais travaillée il y a 5 ans sur tel projet que tu as perdu. Ah, ce serait intéressant qu'on la reprenne. » Bon, ben voilà, donc je vais retrouver ma formule et repartir aussi peut-être de cette formule-là. Et ben, écoute, je vais te montrer. Regarde, ici, j'ai... Alors, ça va mettre du temps, hein, parce que ça fait 30 ans que je suis là. Mais je vais avoir toutes mes formules.
Non seulement les formules, donc, mais les tentatives qui n'ont jamais rien donné. C'est intéressant comme ici, la mémoire informatique vient relayer celle de l'humain. L'humain se souvient vaguement d'une odeur intéressante, exploitée ou pas. L'ordinateur, lui, il retrouve la formule exacte. Il se passe donc, dans la création de parfums, ce qui se passe ailleurs. L'informatique nous permet d'externaliser la mémoire. Et Nathalie m'explique par exemple que la machine a en mémoire des formules qu'elle sait fabriquer un peu pour elle. Par exemple, le muguet dont elle parlait tout à l'heure, qu'il faut recomposer. Eh ben, elle sait fabriquer son propre muguet, son muguet à elle, comme elle dit. Et qui est différent d'ailleurs de celui que chacun de ses collègues sait fabriquer. Alors, on se dit que ça doit énormément faciliter le travail par rapport à l'époque où on formulait sur papier, et sans serveur d'ailleurs qui gardait toutes les formules. Nathalie confirme, mais elle ajoute quelque chose de plus intéressant.
Peut-être que les parfumeurs aussi travaillaient avec un peu moins d'ingrédients. Je sais que quand je suis arrivée, ils travaillaient beaucoup avec des bases. Voilà, ils avaient un muguet, enfin un ou deux muguets. Ils n'avaient pas le choix entre 15 muguets, tu vois. C'était, enfin bon, beaucoup d'exemples comme ça. On est aussi dans le temps de l'instantanéité, c'est-à-dire qu'on veut à tout moment, aujourd'hui, savoir qu'on est bien dans le cadre, qu'on est bien au prix, qu'on est bien dans les normes, qu'on est conforme. Enfin, tu vois, il y a ce truc. Je pense qu'avant, il y avait peut-être aussi, pendant le développement, plus de liberté. Enfin, c'était plus freestyle, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais tu vois. Enfin...
Parce que la machine, en fait, elle fait qu'à n'importe quelle étape de la fabrication dès le début, t'as l'introduction de contraintes.
J'ai toutes les infos, à chaque étape.
Mais est-ce que ça ne s'abrite pas, du coup?
C'est ce que veut le monde aujourd'hui, la sécurité à tout prix. Enfin, bien sûr, et c'est normal, je veux dire. Et c'est d'autant plus normal qu'on travaille dans le parfum et qu'on est loin de l'essentiel, là. Voilà, on est vraiment dans du... Alors, superflu, le mot est un peu fort, parce qu'on aime tous se parfumer et ça devient un besoin pour chacun. Mais c'est un besoin... Enfin bref.
C'est très beau cette hésitation de Nathalie dans la qualification du parfum. Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est superflu? Bon, à vrai dire, ça m'inquiéterait qu'elle tienne le discours que se parfumer, c'est un besoin. Mais j'avoue que ça m'attristerait tout autant qu'elle considère que c'est superflu. Comme notre formule n'arrive pas, je demande à Nathalie si on peut descendre au laboratoire, là où l'ordinateur a donc envoyé notre Nutella Jasmin afin qu'il devienne un parfum qu'on puisse sentir. Quelques étages plus bas, on arrive dans un lieu qui est assez bruyant et plein d'odeurs qui se mélangent et qui sont plutôt assez fortes. Au second plan, je distingue quelque chose qui ressemble à une petite chaîne d'usine, alors on me dit que c'est ça, le robot. Mais au premier plan, il y a une succession de box dans lesquelles travaillent des assistants, surtout des assistantes d'ailleurs. Autour d'elles, plein de bocaux qui contiennent des poudres, des liquides. Alors je m'arrête dans le dernier box où travaille Asia Ghazi. C'est pas l'assistante de Nathalie, hein, c'est pas elle qui va avoir l'insigne honneur de fabriquer notre formule Jasmin Nutella. Mais comme elle a l'air sympa, je lui demande ce qu'elle est en train de fabriquer.
Le robot, il pèse une partie des matières premières, donc c'est les matières premières qui sont les plus utilisées. Donc sans les résines, parce que c'est très difficile à peser pour lui, et sans les poudres, parce que pareil, c'est très difficile à peser en quantité à précision, en fait.
Pourquoi c'est dur de peser des poudres pour le robot?
Comme ce sont des seringues, c'est assez simple de faire par goutte. Tandis que pour les poudres, on ne peut pas faire par goutte. Il y a plusieurs poudres qui ont différentes... Elles ne sont pas toutes pareilles. Donc il faut un robot spécifique. Et ici, pour le moment, on ne l'a pas.
Ok, d'accord. Alors donc vous allez faire chauffer, donc...
C'est ça, on chauffe légèrement pour pouvoir bien fluidifier les poudres, en fait, pour que ça se mélange au reste. Et on agite aussi tout pareil pour que ça soit tout homogène, en fait.
D'accord.
Voilà.
Une fois que c'est fait, vous apportez ça à votre
parfumeur. C'est ça, en fait, une fois que c'est fait, on a le concentré final. On fait une petite solution dans ces flacons-là. Et le parfumeur, il sent la solution qui est dans l'alcool.
Okay.
Suivant le pourcentage où il aimerait le sentir.
Ok, d'accord. Ouais, donc là, vous mettez la poudre dans la solution qui est déjà, la formule qui est déjà donnée.
Exactement. Là, vous voyez, ça commence à se préciser. Mmh.
Attention. Et après, vous chauffez donc ça, la formule. Là.
C'est ça. Je mets un petit agitateur.
Ouais.
Et là, je chauffe. Là, donc là, c'est presque homogène.
Ça, c'est quoi?
C'est une hotte.
Pour aspirer les odeurs, sinon c'est terrible.
Alors, c'est pas terrible, ouais. Mais il y en a certaines, oui, elles sont très coriaces.
Par exemple?
Le sulfure diméthyle. Vous voulez la sentir?
Non, ouais, je veux bien, ouais. Ah, waouh! C'est horrible! Mais c'est immonde,
désolée.
Ce truc! C'est quoi?
Il me semble que c'est un synthétique, si je me trompe pas, ouais. Oui.
Et ça sert à quoi? On met ça dans les parfums?
Oui, ça fait ça. Je vous dis pas ce que c'est.
Ouais, c'est quoi, dis-moi?
C'est de la framboise.
Ah, ouais, c'est de la. Bien sûr. Et, d'accord. Et donc, il y a
de. Il y a ça dedans, exact.
Ah, je peux ressentir là?
Oui,
la
bien
framboise.
Sûr.
Ah, ouais, et donc, il y a de ça là-dedans.
Exact. Mon parfumeur adore cette matière.
Ah, c'est vrai?
Ouais.
Quelques mètres plus loin, il y a donc le robot, celui qui pèse et mélange les ingrédients qui se présentent sous la forme d'un liquide. Alors je m'y dirige avec Asia, il occupe une grande pièce, il y a un tapis roulant, des sortes d'énormes pressoirs avec quantité de seringues et de pipettes, d'autres éléments encore dont j'identifie pas bien la fonction, mais une chose me frappe, des diodes de couleur donnent à la pièce un aspect assez esthétique, quoi, une ambiance à la fois futuriste et chaleureuse. Il y a là un jeune homme, il s'appelle Stéphane Hems, me dit-on. Il a l'air de superviser le bidule. Alors comme je suis un vrai journaliste tech qui va à l'essentiel et qui aime entrer tout de suite dans le dur, ben, la première question que je lui demande, c'est à quoi elles servent ces jolies lampes?
C'est uniquement de la décoration.
Qui choisit la couleur?
Il n'y a pas de...
C'est au hasard. Ouais, franchement, s'ils ont envie de mettre du jaune aujourd'hui, ça sera du jaune.
ça reste toute la journée ou selon les moments de la journée, vous évoluez ça aussi? Par exemple, vous vous êtes fait engueuler par votre chef.
On le met pas en rouge dans ce cas-là. Voilà. Non, il n'y a pas de... Non, j'avoue qu'on s'y est pas trop penché. On met des couleurs qui nous paraissent jolies.
Ah ouais. Elle donne une sorte de chaleur à la machine.
C'est vrai.
C'est quoi votre fonction dans le...
Moi, je fais en sorte que le robot continue de tourner. Et donc, okay. Il s'agit de réapprovisionner les matières pour qu'il continue d'en avoir ou le remettre en route quand il y a des pannes, parce que c'est comme toute machine.
C'est quoi le type de panne auquel est sujet le robot?
Ça peut être des seringues qui cassent, par exemple. C'est très rare, mais c'est vu qu'il y a une énorme pression exercée par la table, c'est comme si on poussait 100-200 seringues en même temps, forcément.
On peut entrer dans le robot?
Bon, je suis là, oui.
Ah.
Si vous voulez, c'est une table qui soulève plusieurs seringues. C'est un système, c'est comme une seringue simple, sauf qu'il y en a 200 accrochées à la même. Donc forcément, on est sur des pressions
d'accord.
Énormes.
Okay. C'est marrant de l'appeler le robot, parce que vous pourriez entrer un enfant dans cette pièce, il dirait pas qu'il y a un robot.
C'est vrai.
Vous le personnalisez un peu ou pas? Enfin,
est-ce qu'on lui donne un nom ou des choses comme ça?
Est-ce que pour vous, il y a une entité, robot?
Enfin, un peu. C'est vrai que quand j'arrive, je regarde s'il va bien en quelque sorte. Ouais. Donc il y a peut-être une forme de... Il y a un petit côté vivant, même s'il n'est pas tant que ça.
Quelle partie de lui vous donne l'impression qu'il est le plus vivant, justement?
Les seringues qui font des allers-retours et même la bande qui tourne toute la journée.
Qu'est-ce qui vous impressionne le plus en ce qu'il est capable de faire?
Bon, c'est la vitesse. Hein. De toute façon, le nombre de lignes qu'on fait à la journée, quand on voit le chiffre, c'est toujours assez impressionnant de se dire qu'il y a autant de matières qui ont été pesées dans une journée.
Il m'a bien plu, ce robot. Et j'ai trouvé vraiment marrant qu'on prenne autant de soin à l'éclairer. Mais bon, c'était pas ce que j'étais venu voir. Ce dont m'avait parlé Nathalie la première fois que j'avais discuté avec elle, c'était pas d'un robot qui pesait des liquides, même si c'est super un robot qui pèse des liquides, mais d'un programme qui aide le parfumeur à créer. Ça me paraît autrement plus casse-gueule. L'outil, donc, il s'appelle Carto. La presse en a un peu parlé parce que c'est assez excitant, voire déstabilisant, qu'une machine puisse aider à la création de parfums. Donc, on remonte quelques étages et je retrouve Nathalie Grassetto, qui est avec Alice Bouy, la responsable du projet Carto.
Alors ça, c'est Carto, donc.
Ouais.
Donc c'est un immense écran.
Et un robot, qui est à l'origine un robot du monde de la pharmacie. Plutôt, qui est utilisé pour faire des prélèvements et dosages de sang,
okay.
Qu'on a détourné il y a maintenant quelques temps pour justement faire un robot d'impression, en fait, de fragrance.
Combien de
matières,
hein?
270 matières sur le piano. On travaille pour faire évoluer cette sélection parce que 270 matières, ça reste un peu restreint, donc ça fait partie des évolutions qu'on espère mettre en place rapidement.
Et ça, vous êtes limité par quoi ?
Par la taille du robot.
Ah ouais.
Oui,
oui. C'est une composante complètement matérielle.
Oui, exactement.
La partie robot de Carto, elle tient dans une cage en verre qui ne doit pas dépasser 2 ou 3 mètres cubes. À l'intérieur, il y a un plateau avec 270 tubes à essai et une partie mobile qui, au-dessus, peut aller puiser dans ces tubes pour en remplir un autre, un seul, où se mélangeront les ingrédients qui composeront la formule. En gros, c'est le laboratoire que je viens de visiter, mais en minus et sans humain. Surtout, ce robot est directement connecté à un écran, mais alors sublime. Donc, on se met en face de l'écran et je demande à Alice de me raconter l'idée qui a présidé à cet objet.
Aujourd'hui, il y a la robotique, il y a de la data science, il y a plein de choses. Et le processus de création des parfumeurs, il est très personnel d'un parfumeur à l'autre. Et donc, comment est-ce qu'on peut capitaliser sur toutes ces avancées technologiques pour les aider à trouver des nouvelles idées, à s'inspirer
Un des avantages de Carto, c'est l'instantanéité du rendu.
Comme on cuisine, on goûte au fur et à mesure. Bah là, c'est l'idée. On a une idée, on va mettre ses ingrédients sur son canevas. Et ensuite, on va sentir et on va avancer, quoi. Donc ça permet très rapidement de tester parfois des idées un peu folles ou des idées pour lesquelles on n'aurait pas forcément envie de lancer le processus au lab, etc. Et ça permet aussi de visualiser, c'était un peu le parti pris de départ, une formule de manière un peu différente. Voilà. On va rajouter quelque chose de visuel. Okay. Et en fait, la taille de la bulle représente la quantité de l'ingrédient dans la formule. Si on est en tactile, on va pouvoir de manière très, avec le toucher, avec la vue, ajuster ces bulles et se dire, je voudrais un peu plus de cet ingrédient, un peu plus de celui-là.
Alors ça, je trouve ça super intéressant. Cette idée de mobiliser d'autres sens par l'intermédiaire de la machine. On peut dire que la formulation en ligne dans un tableur, comme l'a montré Nathalie tout à l'heure, c'est hyper cérébral. Là, avec Carto, par le fait que l'ingrédient soit figuré sur l'écran par une bulle qui a une couleur, qui a une forme, qui a une taille, qu'on peut élargir en l'effleurant, peut-être que ça peut provoquer quelque chose d'autre. C'est pas inintéressant, ça, comme présupposé, l'interaction des sens. D'ailleurs, ça me fait penser à une conviction que j'ai, bon, je suis pas le seul, hein. Nos corps sont beaucoup plus engagés qu'on ne le croit dans le rapport à l'ordinateur. Pas simplement parce qu'on se chope des tendinites avec les souris et qu'on se tue les yeux avec les écrans, mais aussi parce qu'en imposant des postures, la machine peut éteindre des sens, ou alors elle peut en réveiller d'autres. Les spécialistes de l'interaction homme-machine et les designers, ils savent mieux que quiconque, mais c'est souvent oublié quand on évoque les possibilités de l'ordinateur. Alors je trouve ça intéressant que des gens exploitent ces possibilités dans l'idée de stimuler la créativité. Nathalie continue la description.
Donc là, tu as possibilité avec tes petits doigts de dire j'en veux plus ou j'en veux moins, bon voilà, mais tu peux aussi faire confiance à la machine.
Ah, ok, alors.
Quand on a un nouveau produit qui arrive, il faut l'apprivoiser. Et ça, c'est un super outil pour apprivoiser une nouvelle molécule. C'est-à-dire que Carto va dire, sur cet ingrédient que tu ne connais pas, moi qui connais ses caractéristiques physico-chimiques, je l'associerai bien avec ça, dans telle proportion. Ça donne une vision qui a sa valeur autant que la mienne. Après, moi, je ne me contenterai pas de ça, mais c'est toujours intéressant de questionner, comme on questionnerait quelqu'un d'autre, on peut aussi questionner la machine.
J'avoue que j'aime beaucoup cette manière de dire les choses. Questionner la machine. Cette machine, donc, qui réfléchit avec d'autres critères que les nôtres. Mais justement, comment elle travaille, la machine ? Sur quelle base le programme propose telle ou telle association et dans telle ou telle proportion ?
Elles ne les sortent pas de nulle part. C'est comme d'habitude, comme toujours, il y a une base de données. Et derrière la base de données, c'est l'outil de formulation des parfumeurs. Donc, on va se baser sur l'historique pour, derrière, leur donner des suggestions. Donc, sur les suggestions d'ingrédients, là, typiquement, donc, si je lance mes suggestions sur cet ingrédient-là, donc, bien sûr, je viens de le fermer, j'aurais pas dû. Là, qu'est-ce que va faire la machine ? Elle va regarder l'ingrédient et ses différents descripteurs olfactifs et elle va me dire, tiens, tu as aussi ces autres matières-là qui ont les mêmes descripteurs olfactifs. Si jamais celui-ci, tu voudrais le changer et tester autre chose. Et on cherche des choses pour aller plus loin, notamment ici avec les Never Tried, dont l'objectif, c'est de se dire, cette matière-là, dans l'historique Ice Sphinx, n'a jamais été associée avec ces matières ici.
Oui, ça ne vous contentait pas de ce qui a déjà été fait pour reproduire des trucs qui existent, mais il y a des sortes de... Oui, elles sont faites sur quelle base, ces propositions
Never Alors, on va chercher dans la base de données Ice Sphinx tous les ingrédients, en fait, de la bibliothèque Givaudan. On va les chercher, on lit la matrice dans l'autre sens et on se dit, cet ingrédient-là, par exemple l'alcool cinnamique, on regarde tous les autres ingrédients pour lesquels il y a eu zéro association. C'est-à-dire qu'il y a zéro formule dans lesquelles ces ingrédients ont été combinés.
C'est en creux, en fait. C'est le système en creux.
Autre belle formule, ça. Le système en creux. J'aime bien cette idée que la machine fasse les choses, mais à l'envers, en proposant de casser les habitudes. Mais alors, comment le parfumeur, lui, il reçoit une proposition comme ça, le Never Tried, l'association qui n'a jamais été tentée?
Moi, je ne peux pas le savoir, en fait. Ça, c'est vraiment un truc que m'apporte la machine, que moi, je ne peux pas... Oui, moi, je sais ce que moi, je n'ai jamais utilisé avec quoi, et c'est comme ça aussi qu'on trouve la nouveauté, et qu'on trouve le... Mais que la machine te dise, bah tiens, au lieu de le prendre, de dire, bah voilà, habituellement, ça marche, parce que c'est souvent comme ça que marche l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'elle va sur le connu, et elle digère le connu, et enfin, je parle en termes très triviaux, mais c'est comme ça que moi, je la comprends.
Oui, mais il y a peut-être des raisons pour lesquelles ça n'a jamais été associé.
Bien sûr. Oui.
Alors après, c'est sûr que dans les matières suggérées, il y en a qui ne vont pas du tout ensemble.
On n'est pas à l'abri d'un clash intéressant.
C'est bizarre, mais en écoutant Nathalie et Alice, je pense au jeu des surréalistes. Le cadavre exquis, par exemple. C'est exactement ça, le cadavre exquis. C'est la recherche de ce que Nathalie appellerait un clash intéressant, mais du point de vue du langage. Seulement, les surréalistes, ils s'en remettaient pour ça au hasard. Enfin bon, plus ou moins au hasard, parce que les mots ou les segments de phrases qu'ils choisissaient, les copains de Breton, bon, ils étaient souvent intéressants déjà en eux-mêmes, et puis ils se connaissaient les uns des autres, ils avaient un imaginaire commun, parfois ils grugeaient d'ailleurs, on le sait, bon. Mais bon, accordons-leur le crédit du hasard. Dans le cas de Carto, c'est pas le hasard, mais c'est une logique machinique programmée par des humains, certes, mais que la machine rend possible grâce à son aptitude à fouiller très vite d'immenses bases de données. Et il faut laisser la possibilité à cette logique machinique de produire quelque chose. Je trouve ça assez passionnant. Mais j'ai besoin d'un exemple de ce que ça permet vraiment. De manière très concrète, est-ce que Carto fournit des résultats qui sont intéressants ?
J'ai travaillé il y a quelque temps sur un très joli projet avec... j'avais un apprenti à l'époque qui, lui, c'est peut-être un truc de génération aussi, hein, il faut bien le dire. Il était vachement attiré par l'outil, il a beaucoup expérimenté sur Carto. Et à un moment, il s'est agi de rajouter du rouge.
Dans
la fragrance, oui, du rouge. Du rouge.
Du vrai rouge, quoi, la couleur rouge.
Du rouge. On voudrait quelque chose de rouge. Alors voilà.
Du sang, quoi.
Par exemple. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas la betterave ? Lui, il savait quel ingrédient il allait utiliser. Parce que, comme tous les parfumeurs, il se dit, bon, une betterave, ça sent un peu le sucre, mais ça sent beaucoup la terre. Il y a un truc un peu juteux, mais il y a aussi un truc un peu râpeux. Donc il est venu là, il a mis ses ingrédients. En premier lieu, il a fait tourner la machine.
Ah, okay.
Et puis après, il a réajusté en fonction. Il a vu ce que la machine lui proposait. Mmh. Et il s'est dit, ah non, mais attends, là, moi, je la betterave, je la vois quand même plus... pour moi, elle est plus terreuse. Donc je vais, hop, je vais augmenter. Enfin, voilà. Il s'est amusé et il a sorti un truc qui était génial en 5 produits qui sentait la betterave.
Ok, mais l'assistant Nathalie, il est arrivé avec déjà pas mal d'éléments. Pourquoi est-ce que la machine ne lui a pas proposé d'emblée toute la formule de la betterave ?
Je pense que la machine, aujourd'hui, n'aurait pas su assez dans la finesse lui dire « Si tu veux une betterave, il faut que tu utilises tel et tel ingrédient. » C'est pas possible. Pas aujourd'hui. Mmh. Et on le souhaite pas, d'ailleurs. Parce que chacun a besoin de faire sa propre betterave. Enfin, chacun a une idée de ce que sent la betterave. Et en revanche, si tu veux utiliser un ingrédient, elle peut te dire « Ah, mais tu pourrais aussi utiliser ça. Pourquoi tu essaierais pas ça ?»
C'est une suggestion basée sur la donnée. Donc, libre au parfumeur d'ajuster derrière.
Voilà. Et qui est basé sur une harmonisation, qui est aussi un truc assez arbitraire. C'est une harmonisation technologique, quantifiée, scientifique, entre guillemets. Or, moi, je ne vais peut-être pas chercher cette harmonisation. Mais ça m'intéresse quand même de savoir. Mmh. Et peut-être que ça m'intéresse juste de le savoir pour le transgresser.
Cette harmonisation machinique, donc, elle repose, dans le cas précis, sur une notion propre à Givaudan, la mesure de l'intensité olfactive des ingrédients, l'odeur value, dont Nathalie m'a déjà parlé. C'est principalement sur la base de ce critère que Carto propose ses harmonisations. Mais du coup, la question que je me pose, c'est, est-ce que l'avenir, c'est pas de combiner encore d'autres données, par exemple l'harmonie privilégiée par la marque cliente, les ingrédients et accords à la mode, etc. Est-ce que l'avenir, c'est pas d'entrer directement le brief dans la machine et qu'elle sorte une proposition ?
Hein, tu veux notre disparition ?
Ben non, moi, c'est pas moi qui la veux, si tu veux, mais tu te dis...
Bon, je reconnais, c'était maladroit. Mais pour ma défense, j'étais à ce moment-là en train de regarder la super série britannique Years and Years, qui fait un peu de prospective. En gros, elle raconte notre monde dans les 10 prochaines années. Juste une minute du générique pour le plaisir. Une des tendances imaginées par les scénaristes de Years and Years, c'est une crise générale de l'emploi provoquée par le remplacement progressif des humains par des programmes pour toute une série de tâches de plus en plus complexes. Bon, c'est une hypothèse avancée aussi ces dernières années par des économistes très sérieux, sans qu'on en perçoive vraiment encore les effets. Contrairement à ce qu'on pensait il y a 5 ou 6 ans d'ailleurs, les chauffeurs de taxi n'ont pas à craindre d'être remplacés immédiatement par des programmes. Mais là quand même, dans ce que me disent Alice et Nathalie, on peut voir poindre ce rêve. Donc, je le reformule et Nathalie, ben elle répond.
Bah, tu sais, le rêve de ça, ce serait qu'à la fin, chez Sephora, tous les parfums seraient les mêmes. Pour l'accident. L'accident, il est humain.
L'accident, peut se programmer, pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
Oui, mais en même temps, l'ordinateur, il sera pas du tout en mesure de dire si ça sent bon ou pas.
Cette phrase tout à fait de bon sens d'Alice Bouy a été pour moi une révélation. En fait, je pense que c'est un propos d'une grande profondeur. Parce que ça dit une chose, la création ne peut pas s'envisager sans sa réception. C'est-à-dire qu'on peut sans doute faire en sorte que les machines créent des parfums. Mais jamais elles seront capables d'évaluer leur création. Et même si un jour elles étaient capables d'évaluer la réception de leur création par les humains, par exemple en monitorant les réactions de cobayes et en brassant des données statistiques, eh ben, il est fort peu probable qu'un jour elles sentent. Elles sentent le parfum comme nous le sentons. Qu'est-ce que c'est donc qu'un créateur qui ne peut pas jouir de ce qu'il crée? Un créateur à qui la jouissance de sa création est interdite ontologiquement? Eh bien, je pense pour ma part que c'est un piètre créateur. C'est un peu ce que dit Alice quand elle explique qu'elle n'a pas du tout une formation de parfumeuse.
Je fais des tests tous les jours sur Carto. L'outil est top et me propose plein de choses. J'ai jamais eu une fragrance qui est sortie du Carto qui sent bon parce que je n'y connais rien. J'ai pas le côté, bah, je vois ce que ça sent, donc je sais que ça va. Voilà, je m'imagine, je me projette. C'est ça et ça, c'est pas datifiable.
Bon, si je comprends bien, le Carto actuel, ce n'est pas un programme qui crée des parfums. Ce serait comme une sorte de partenaire du parfumeur humain, un partenaire qui a des qualités propres et assez admirables d'ailleurs. Un partenaire avec lequel il est intéressant de discuter, mais qu'il ne faut pas laisser tout seul parce que sinon il risque de faire des trucs soit déjà vus, soit qui puent. D'accord, mais j'imagine que le programme est en constante évolution. Donc je peux pas en rester à cette conclusion qui est un peu grossière sans parler à ceux qui ont les mains dans le cambouis hein, et qui voient ce que la machine pourra faire demain. Alors on m'a indiqué quelqu'un à qui il fallait que je parle. Quentin Guédard, directeur de la stratégie et l'innovation à Givaudan, à Vernier, en Suisse. Je vais donc passer un coup de téléphone pour poser les dernières questions qui me tarabustaient. Et la première, c'est, on est bien d'accord, hein, dans la version que j'ai vue, Carto n'est pas à proprement parler de l'intelligence artificielle au sens où il n'y a pas d'apprentissage machine, etc.
Le Carto d'aujourd'hui utilise un tout petit peu d'intelligence artificielle sur certaines des mécaniques de recommandation que l'outil propose aux parfumeurs, qui sont les mécaniques de dosage des ingrédients. Par contre, c'est un tout petit bout de tout ce qu'on imagine que Carto pourrait fournir un jour en termes d'intelligence artificielle. Et on a en fait un certain nombre d'autres activités de développement d'algorithmes d'intelligence artificielle qui sont à différents niveaux de maturité.
Ok, mais j'ai évidemment envie de savoir plus précisément ce que permettent ces algos qui sont en développement, là, au-delà de ce que m'a montré déjà Alice.
On a un sujet qui s'appelle l'exploration des white space, des espaces inexplorés, où en fait, au travers d'un algorithme basé sur des mesures de distance entre formules, l'algorithme va proposer des additions de la formule qui vont l'emmener vers des espaces olfactifs inexplorés, donc des choses qui ne sont pas proches de d'autres formules existantes. Il faut aller chercher loin de ce qui existe, mais pas trop en fait. Tout ça, on est en train de l'apprendre, c'est-à-dire que créer l'algorithme, c'est une chose. Après, structurer les recommandations de l'algorithme pour qu'elles soient plus pertinentes, c'en est une autre. Et on ne peut pas se reposer uniquement sur une approche bêtement mathématique sur un sujet comme ça. On doit combiner des éléments de cadrage, en fait, qui viennent de notre connaissance du business et qui viennent surtout de l'expérimentation, en fait. On essaye, on regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc.
Bon, a priori, en effet, ça a l'air d'une méthode classique du machine learning qui fonctionne par essai-erreur. Mais est-ce que le problème n'est pas que la machine ne peut pas évaluer elle-même la qualité de ce qu'elle crée ? La limite dont parlait Alice tout à l'heure.
Alors la qualité, non, parce que la qualité, c'est un critère très très subjectif et dépendant du contexte. Par contre, il y a des étapes un petit peu intermédiaires que la machine peut faire. Par exemple, aujourd'hui, on est à peu près capable d'avoir une machine qui dise qu'est-ce qu'une formule va sentir basée sur les ingrédients qui la composent. Par le passé, on n'était pas capable de dire cette formule, elle va sentir vraiment ça, sans avoir une analyse d'un parfumeur sur la formule. Ça, c'est des choses qu'algorithmiquement, on devient capable de faire.
C'est assez dingue ça, parce que c'est exactement ce que j'admirais tout à l'heure chez Nathalie quand, en regardant simplement la liste des ingrédients et leur dosage sur son écran, elle était capable d'avoir une idée de ce que ça allait donner. Et bien Quentin, là, il m'explique que la machine peut aujourd'hui faire ça aussi. Bon, la différence, c'est que Nathalie, elle le fait grâce à son expérience intellectuelle et sensible, alors que la machine, elle, elle le fait sur la base de critères mesurables, quantifiés, comme la fameuse odor value, l'intensité olfactive de l'ingrédient dont on parlait déjà tout à l'heure. À la différence près aussi que Nathalie, elle, elle pourra comparer l'idée qu'elle se fait de sa formule à la solution que le laboratoire lui apportera en la sentant, alors que l'ordinateur, lui, il ne pourra pas aller au-delà de son idée mathématique du parfum. Et je me demande d'ailleurs quel serait le rêve technologique de Quentin Guédard.
Je vais peut-être vous décevoir, mais je rêve pas trop de techno, je rêve de données.
Ah bon ? De données ? Et le set de données que vous aimeriez avoir, c'est lequel ? C'est celui de ce que dit quelqu'un la première fois qu'il met un nouveau parfum ?
Ouais, c'est la compréhension du consommateur, en fait. C'est ça qui est le plus difficile à attraper, parce que même dans notre industrie, on fait des tests, mais vous voyez, les tests, c'est pas le même contexte que celui du client qui vient chez Sephora, qui essaye trois parfums et qui part avec un achat, en fait. Cette perception de l'instant de l'essai qui trigger la décision d'achat, ça, on a très très peu de choses, en fait, là-dessus.
Ouais, bon, je crois que dans un vocabulaire moins marchand, on parlerait, en fait, de goût. On dirait qu'on a du mal à modéliser le goût humain. On en revient, en fait, toujours à la même question. Le problème auquel on se heurte quand on fait créer les machines, c'est la méconnaissance de l'humain qui, au final, est le destinataire de ces créations. En fait, on aurait sans doute beaucoup moins de difficultés si ces algorithmes créaient des parfums pour d'autres machines. Bon, sauf que les machines s'en foutent de se parfumer. Alors que, j'allais le remercier, Quentin a voulu ajouter quelque chose auquel je ne m'attendais pas et qui, bizarrement, nous a emmené assez loin.
Il y a des technos qui me feraient rêver et qu'on n'a pas, hein, mais qui ne sont plus dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je pense qu'ils sont plutôt dans le domaine de la dématérialisation du parfum.
Quoi ? La dématérialisation du parfum ?
Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour sentir, vous avez besoin de respirer un gaz, en fait. Mmh. Vous avez besoin d'avoir le liquide, vous avez besoin d'avoir une matière première qui stimule vos cellules de la bouche et du nez afin de vous faire sentir l'odeur, comparé à la vue, l'ouïe, où en fait, avec un écran, avec un micro, etc., on arrive à transporter à distance, de manière dématérialisée, le son ou l'image, le goût et l'odeur, on n'en est pas encore capable.
Donc, Quentin rêve d'un parfum qui serait généré par autre chose que la perception de nos sens. Il rêve de trouver l'équivalent de l'écran pour le parfum. C'est pour l'instant la limite de l'informatique. L'informatique peut contenir le son, l'informatique peut contenir l'image, des idées aussi évidemment, mais pas une odeur. L'odeur ne se dématérialise pas. L'odeur, elle ne peut pas encore être produite par une suite de 0 et de 1. Autrement dit, le monde entier n'est pas encore absorbable par l'informatique. Je sais pas pourquoi, mais ça me rassure un peu. Quant au Nutella Jasmin, la formule n'est pas arrivée. Je ne saurais jamais ce qu'aurait senti notre parfum si le mélange de cacao, d'amandes grillées et du jasmin qui s'épanouit un soir d'été mériterait de parcourir un jour les câbles de l'Internet pour arriver jusqu'au nez de celui qui en entend parler. Merci à Quentin Guédard, Alice Bouy, Asia Ghazi et Stéphane Hems. Merci beaucoup aussi à Sophie Cauchy d'avoir organisé tout ça. Et évidemment, un merci particulier à Nathalie Graciasetto. À la prise de son, c'était Vincent Godard, au mixage Basile Bocquer et réalisation Fanny Beauillon. C'était Le Code a changé, un podcast proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.